Campus Lille, il est 18h.
Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Heureusement en France, de 18h jusqu'à 19h pour parcourir ensemble l'actualité geek et ludique sur les ondes de Radio Campus en 6,6 FM et DAB+. Aujourd'hui, nous sommes trois pour animer cette émission. Et moi-même, François, je suis accompagné de Reynald.
Bonsoir à tous.
Et de Dominique.
Salut tout le monde.
Nous avons la chance d'avoir un invité autour de la table cette semaine, puisqu'en Antoine Candeille nous a rejoint. Tu es auteur et également ambassadeur du Butterfly Land.
Oui, bonsoir à tous. C'est en fait, je me suis bombardé ambassadeur du Butterfly Land.
Ils font du chocolat.
Parce que je trouvais que ça en jetait quand même pas mal, quoi.
Et voilà, nous te recevons justement pour parler de cet ensemble de livres. Tu as créé un peu ton univers qui est le Butterfly Land ici, même si un peu plus on le détaillera sans trop spoiler, puisque c'est très facile de spoiler le bouquin. Et tu as également une maison d'édition.
Voilà, les collections du Dr Oz. Pareil, je me suis auto-proclamé docteur, ce qui a évité de faire 7 ans d'études, tout simplement.
Ouais, t'inquiète pas, t'es pas le seul. Il y en a bien d'autres.
Ouais, je me suis inspiré du professeur Rollin et du professeur Choron, en fait.
Voilà. Très très bonne référence.
Ah là là, ne me parlez pas de Rollin, moi je... on va faire une deuxième heure après, spécial Rollin éventuellement. Maison d'édition donc, qui permet d'éditer tes propres bouquins.
Oui, absolument. Et aussi de faire des rééditions. Donc, c'est Alice Garbet qui nous a fait, entre autres, le Tour du Monde en 80 jours, de Jules Verne, bien sûr. Et aussi le Testament d'un excentrique, toujours de Jules Verne, qui est beaucoup moins connu, qui toutefois est un petit peu le pendant du Tour du Monde, puisque là, ce sont les héros qui sont baladés, tels des pions, sur un plateau. Le plateau, c'est les États-Unis d'Amérique, et ça fonctionne exactement comme le jeu de loi. Donc la cage 33, c'est l'Illinois, et ils ont 2 jours pour aller à la case 37, s'ils ont fait 5, qui est la Californie. Et donc c'est assez sympa, c'est là où aussi on se rend compte que Jules Verne était un très très
c'était
bon...
C'était un geek avant tout, avant l'heure.
Bah, alors effectivement, il y a même un livre que je conseille à tout le monde, de Nicolas Allard, où il explique que Jules Verne est le père de tout. Alors ça, il rentre certaines hypothèses au forceps, mais ça fonctionne. Pour lui, même One Piece, c'est Jules Verne. Harry Potter, c'est Jules Verne. James Bond, Jurassic Park. C'est assez marrant. Et il explique pourquoi. À chaque fois, il explique vraiment pourquoi il pense tout ça. Jules Verne était vraiment à la base de tout. Je dis toujours, qu'un homme a rêvé, un autre le réalisera. Cette phrase de Jules Verne. Lorsque Jules Verne a écrit de la Terre à la Lune, bon, c'était de la science-fiction. Désormais, grâce à lui, c'est devenu de l'histoire. Donc tout est possible. Et c'est ça qui est merveilleux avec l'humain. Et aussi catastrophique, c'est que tout est possible, le meilleur comme le pire.
Est-ce que ça veut dire qu'avant Jules Verne, il n'y avait rien?
Mais est-ce que la mère de Jules Verne était Jules Verne?
Ouais, ok. C'est pas.
C'est parti.
Alors, il y a une question que nous posons à tous nos invités afin de connaître un peu leur parcours. Comment est-ce que tout cela a commencé? Comment en es-tu arrivé à devenir auteur et à créer cet univers? On peut dire de rêve, ça y est, je commence à spoiler en donnant quelques petits éléments. Mais où est-ce que cela a commencé?
Eh bien, assez jeune en fait. C'est-à-dire que depuis que je suis tout petit, j'écrivais des petites nouvelles, des choses comme ça. Et je savais que c'était le métier que je voulais faire plus tard, raconter des histoires. On peut les peindre, on peut faire de la musique, de la sculpture, du théâtre, du cinéma. Il y a beaucoup de façons de raconter des histoires. Ce qu'il y a, c'est qu'en troisième, quand on dit ça à un conseiller d'orientation, il va rapidement vous dire que c'est pas un métier, monsieur Candeille, raconter des histoires. Donc j'ai fait...
Même de la si pub. Lui, il en raconte à longueur de journée.
Voilà, c'est devenu mon métier. J'ai fait de la pub, du conseil, du marketing. Et en fait, ce qui s'est passé, en gros, j'étais dans une société, ils ont fusionné, mais pas avec moi, donc je me suis retrouvé au chômage. Les journées peuvent être longues, motus, et donc j'avais toujours des petites idées en tête, et c'était le moment de le faire. Je l'ai fait, j'ai retrouvé du travail après, et j'ai arrêté ce travail pour faire plus que ça. C'est là aussi où je me suis rendu compte que dans la vie, en fait, à chaque fois qu'on pense être éloigné de quelque chose de bien, c'est pour finir être approché de quelque chose de meilleur. Et j'encourage vraiment tout le monde à penser ça, même une rupture sentimentale. On est éloigné de quelqu'un de bien, qu'on aimait, c'est pour finir trouver quelqu'un de mieux après. Donc à chaque fois, c'est cette phrase un petit peu bateau et passe-partout, mais la vie nous met des pierres à nous savoir si on en fait des murs ou si on en fait des ponts, en fait. Et je pense que il faut, c'est pas facile, mais il faut qu'on se ressaisisse et qu'on se dise ça va aller. Et voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide.
Les trois dernières, enfin les trois, quatre dernières années nous ont montré que.
Oui, on a pris cher, ça c'est sûr et certain.
Oui, autre genre de phrase bateau que j'ai sorti aussi il y a quelques années, c'est ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Oui, c'était envie de frapper les gens qui disent
et là, je peux dire que la ville nous a mis une sacrée pierre là. c'est un pont mur qu'elle nous a mis là.
Ah, puis c'est surtout très 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 anxiogène en fait. On l'a oublié, mais il y a 3-4 mois, c'était pile rideau, fallait plus arroser son jardin.
Alors, c'est encore le cas, je pense, hein, même s'il n'y a plus trop besoin, mais est-ce qu'on pourra à nouveau
avoir un jardin? Ça, je sais pas.
Autant tout bétonner.
Mais c'est pas banal, parce qu'il y a plein de gens qui se disent ça, que ce soit là, parce qu'ils sont retrouvés au chômage, etc. Ouais, moi aussi, j'ai toujours eu envie de faire ça quand j'étais petit. Il y en a des milliers, peut-être des millions à travers le monde qui se sont dit, moi, je serai écrivain plus tard et dès que j'aurai le temps, je m'y mettrai, etc. Mais il faut le faire, quoi. Il faut vraiment franchir le pas.
J'ai aussi un
truc en plus ou je sais pas.
J'ai aussi la chance d'avoir, d'être accompagné par mon amoureuse, que j'aime beaucoup et que j'embrasse, puisqu'elle doit m'écouter, qui m'a toujours soutenu, en fait. Même quand j'ai voulu ne faire plus que ça, elle m'a dit, je veux pas être celle qui va t'empêcher de faire ton rêve. En général, les gens, quand on fait un changement drastique de vie, ils disent, mais tu vois pas le risque que tu vas prendre? Elle m'a plutôt dit, saisis ta chance.
Si tu le fais pas maintenant, peut-être que tu ne le feras jamais.
Oui. Ça. Et ce qu'elle m'a dit, elle dit, je veux pas être la personne à qui tu pourras en vouloir en disant, tu m'as empêché de vivre mon rêve. Donc elle a dit, fais-le, si ça fonctionne, tant mieux, si ça fonctionne pas, eh bien tu retrouveras autre chose. Il se trouve que ça fonctionne relativement bien, donc c'est parfait.
Sans vouloir diminuer la somme de travail ou le temps que ça prend, entre si ton rêve c'est d'écrire un livre ou des livres, ou de construire un bateau pour faire le tour du monde, c'est pas la même somme d'argent investie ni le même temps. Donc si on rate son bateau et qu'on coule en plein milieu de l'Atlantique, c'est pas la même chose que si on sort un bouquin, puis personne en veut, puis c'est l'instant, tu peux toujours retomber sur des
pas. Oui, c'est sûr que c'est pas la même limonade quand on est en plein milieu de l'Atlantique. en rade, mais ça reste, tout reste une aventure. Quand je dis le risque n'existe pas, ce qu'il y a, c'est qu'on a l'impression d'être les Nostradamus de notre vie. On se dit tout le temps, je vais faire ça, il va se passer ça, c'est sûr. Et ça, oui, de toute façon, c'est nul ce que je fais, ça sert à rien. Non, j'ai coutume de dire que la peur, ce sont des histoires qu'on se raconte. Et comme toute histoire, elles ont un début, un milieu et une fin. Et pour plus avoir peur, c'est facile à dire. Mais il suffit juste de se raconter une autre histoire. Quelqu'un qui a peur de l'avion, l'avion décolle, l'avion vole, l'avion s'écrase. C'est très rare que l'avion s'écrase, c'est spectaculaire, mais c'est heureusement très très rare. Donc voilà, il suffit juste de se raconter une autre histoire. La peur, c'est juste une histoire qu'on se raconte. Et en se racontant d'autres histoires, justement, on va pouvoir faire en sorte que les choses aillent mieux. Lorsque j'ai passé mon permis moto, on m'a dit que la moto irait là où je regarde. J'ai fait l'expérience, j'allais pas très vite. Mais effectivement, c'était ça. Et quelqu'un qui monte à cheval m'a dit, voilà, c'est pareil. Si on regarde l'obstacle, on le prend. Si on regarde au-delà de l'obstacle, on le franchit. Alors, c'est vrai que c'est toujours facile à dire.
À notre petite échelle, ça fait quoi, 3-4 ans qu'on fait une émission de radio? C'est qu'au début, si on nous avait dit, on va parler dans un micro, puis il y a des gens qui vont nous écouter, on va dire des conneries devant des micros et ça va marcher. Oui, ok. Bon, on l'a fait, puis ça va. On s'amuse bien. Et la première fois, je me souviens plus de la première fois qu'on a parlé en direct dans le micro, mais ça fait bizarre, quoi.
Je crois qu'il y avait plus de musique que nous qui parlions, mais de mémoire.
Toutes les premières fois,
on l'a peut-être bafouillé, il y avait beaucoup de E, il y en a sûrement encore beaucoup, quoi, mais ça s'améliore.
Et puis, ce qu'il faut, c'est prendre plaisir, surtout. Toujours prendre plaisir dans ce qu'on fait. D'après mes derniers calculs, on n'a qu'une seule vie.
Il y a du débat là-dessus. J'entendais.
Mais bon, je pense qu'il faut faire les choses qu'on a envie de les faire. Et puis, arrêter d'être son propre frein, en fait. Le problème, c'est qu'on a tout le temps l'impression que les autres font mieux. Et puis, on se met nous-mêmes des barrières. Et c'est pas facile de les franchir. Mais c'est pas parce que c'est pas facile que c'est impossible.
Alors, on parlait de se lancer dans son projet. Tu ne t'es pas lancé tout de suite à créer ta maison d'édition. Tu as quand même écrit les bouquins, les premiers. Alors, je pense que c'est les chroniques.
Oui, voilà.
Butterfly Land, qui ont été publiés par une maison d'édition avant que tu crées ta propre
Oui.
Il faut dire société ici.
Une maison d'édition, pardon, sur Paris. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'écrivain arrive en bout de chaîne. Il y a d'abord l'imprimeur, l'éditeur, le distributeur, le libraire, et enfin, ce qui reste, c'est-à-dire entre 8 et 10% pour l'écrivain. Donc, c'est sûr que quand on tire à 300, 400 000 exemplaires, bon, ou même 30 000, ça va. Mais moi, pour commencer, c'est pour ça que j'ai aussi fait ma maison d'édition, pour avoir aussi plus de liberté dans le choix des couvertures, des choses comme ça. Et puis, pour me permettre de pouvoir en vivre, et aussi avoir de la liberté, prendre plaisir. Surtout, c'est ce que je dis toujours lorsqu'il y a des gens qui me disent « Voilà, comment il faut faire pour écrire ?» Je dis, déjà, savoir pourquoi on écrit, pas comment. On sait tous comment on fait les choses, mais on sait rarement pourquoi on les fait. Et toujours, prenez plaisir. Voilà, ce qu'il faut, c'est vraiment prendre plaisir à ce qu'on fait, surtout.
Juste un petit truc, l'éditeur à Paris dont tu parlais, on ne va pas forcément le citer, mais c'est un vrai éditeur impossible, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent dans l'édition, et il existe un certain type d'éditeur qui, alors je sais pas comment les appeler, qui, enfin, en plus, auquel tu envoies tes manuscrits et ils te promettent moins émerveille, mais en fait c'est toi derrière qui va avancer l'argent pour faire etc.
Voilà,
alors, ce genre, il y a deux types d'éditeurs, il y a vrais éditeurs qui sont imposés, qui vont tout faire pour toi, qui vont t'aider, qui vont même éventuellement te donner une avance s'ils croient en toi, qui vont te faire venir sur les salons à leurs frais pratiquement etc. Et il y a d'autres types d'éditeurs qui font vraiment du grand public. T'es content d'avoir ton livre papier etc. Mais faut pas t'attendre à des merveilles quoi.
T'as dépensé plus d'argent que tu risques.
Oui c'est ça, c'est à toi de tout faire pratiquement.
Ah, les premières.
Alors là, pas tomber dans le piège.
Là ouais. C'est un vrai éditeur. Ce que je conseille d'ailleurs à tout le monde, c'est de mettre le nom de la maison d'édition sur Google avec le mot arnaque. Ah, comme ça, ils vont voir tout de suite ce qui remonte.
Ça marche avec tout. Hein.
oui, non, c'est vrai. Alors, je vais en balancer un. Ce sont par exemple les éditions Baudelaire. Eux vont vous proposer un contrat 1000 livres pour 5000 euros. Alors, il faut avoir déjà les 5000 euros. Vous pouvez d'ores et déjà tout de suite négocier à 2005.
Donc, ça craint ouais, déjà.
C'est bizarre. Et 1000 livres, il faut les stocker en plus.
Ah oui, il faut les envoyer, c'est ça. Enfin, c'est un imprimeur, c'est pas
voilà.
Un éditeur.
Voilà, c'est ça.
Un éditeur, c'est bien plus que
donc,
ça.
Un éditeur doit vraiment faire du travail. Là, vous avez vos 1000 livres, vous savez pas quoi en faire. Dès qu'il y a une réunion de famille, vous en avez dans le coffre, vous essayez de les écouler. Donc, du plaisir, ça devient un sacerdoce. Vous avez ce fil à la patte. Et là, on se fait plus plaisir. Et c'est dommage. Parce que ces maisons d'édition qui n'en sont pas, gâchent le plaisir de certaines personnes.
Voilà. L'argent, ouais.
Et puis, ça devient plus un plaisir. Quand on écrit un second, non, surtout pas. Ça m'a déjà coûté 5000 euros et j'ai encore 3000 exemplaires.
Ouais, c'est ça, faut envoyer, c'est un manuscrit. Je ne sais pas si on les envoie encore sur papier, peut-être, parce que maintenant, c'est par mail qu'on envoie. On envoie un fichier PDF ou un fichier Word, éventuellement.
Maintenant, c'est encore beaucoup sur papier, en fait.
Ouais, il ne faut pas hésiter à en envoyer à plein d'éditeurs et ne pas forcément attendre, un petit peu comme les CV quand on cherche du boulot. Il ne faut pas forcément attendre une réponse, parce que les éditeurs, surtout depuis quelques années avec le confinement, ont reçu des tonnes,
des tonnes de
livres. Plus ou moins. Et ils ont déjà avant, ils avaient du mal à juger. Alors maintenant, c'est très difficile.
Moi, j'avais eu un conseil de Bernard Weber. J'avais pas rencontré, c'était sur un chat. Je lui ai posé cette question, un petit peu tarte à la crème. Quel est le secret pour trouver une maison d'édition? Il m'avait répondu, et c'est juste, mais bon, j'étais pas plus avancé. Il m'avait dit, être opiniâtre, chanceux et avoir une bonne photocopieuse.
Ah oui, c'est ça. Ah, ok, voilà, tout est dit.
Et bien
s'entendre avec son facteur. Quand on arrive à la poste avec... Des colliers envoyés.
Alors pour ceux qui... Alors même si on n'a pas encore parlé des bouquins, vous pouvez tout de suite commencer déjà à chercher puisqu'on va écouter un peu de musique. Donc nous sommes avec Antoine Candeil. Et si vous cherchez donc Butterfly comme un papillon en anglais, Land, pour les Français, vous collez le tout.
Absolument.
Et vous arrivez donc sur ces bouquins que l'on
ou
va
bien
détailler.
Vous cherchez le nom de la maison d'édition, les collections du Dr Oz. Il y a une page Facebook où on voit le détail.
Il y avait aussi un site internet, mais là, il mouline un petit peu en ce moment. Je m'en occupe.
Alors, petite pause musicale avec un groupe français, l'un des plus connus internationalement. C'est Phoenix qui nous propose son 7e album qui s'appelle Alpha Zulu. Et la chanson qu'on va s'écouter ensemble, c'est Artifact.
I'm looking for an artifact. I'm looking for an artifact. What would it make it still attract you?
Vous êtes toujours sur les ondes de Radio Campus 106,6 FM et DAB+ dans l'émission Heureusement en France. On reçoit aujourd'hui Antoine Candeil pour cette série de livres dans l'univers du Butterfly Land. On va vous en parler tout à l'heure et je peux vous promettre que vous allez voyager avec nous. Avant de voyager dans des mondes un peu fantastiques, j'espère que je ne m'avance pas trop là-dedans.
On peut y aller de toute façon.
Nous allons voyager sur du un peu plus concret avec l'agenda.
Mais aussi dans des mondes fantastiques. Hein.
Ah, très bien.
Je ne sais même pas par quoi commencer. On parle du week-end prochain, hein, le 11, alors 11 novembre, c'est 11, 12, 13 novembre. C'est terrible. On va commencer par un salon qu'on connaît bien parce qu'on les suit depuis le début. Ludigeek. Ludigeek, le salon des geeks et du fantastique et de tout, à Luin, dans la salle du ménage, mais ça tombe bien, voilà. Dimanche et samedi et dimanche, c'est gratuit de 10h à 18h, enfin quelque chose comme ça. C'est excellent parce que là, c'est vraiment geek. Tu peux croiser un Stormtrooper qui discute avec un Jedi, avec un Hobbit, exactement, c'est ça, ou Harry Potter, c'est fou. Et je crois que tu dois avoir des auteurs qui viennent, des auteurs de jeux, il y a des protos, il y a des boutiques, il y a du cosplay, il y a du manga, du comics, il y a de tout. Et il y aura des bandes d'arcade cette année. Une association, une boutique qui vient avec des bandes d'arcade à tester en live. Il y a toujours des concours, des jeux, de l'animation. Puis Mike, qui à chaque fois qu'il nous reçoit avec plaisir, on va y être, bien sûr.
Est-ce que Mike n'est pas notre premier invité, d'ailleurs ?
C'est pas impossible. Même si c'est le seul qui n'est jamais venu physiquement.
C'est vrai.
Ouais, ça va. Donc, toujours des surprises. Enfin, vraiment, Ludigeek à Luin, le week-end prochain, 11 et, 12 et 13. C'est vraiment le salon. Voilà, où quand t'es geek, t'as tout à disposition, là. C'est
si pratique. Vous êtes fan de rétro gaming, restez sur les ondes de Radio Campus la semaine prochaine. On va falloir écouter pendant 7 jours. Mais voilà, dimanche prochain, nous serons vraiment dans le thème avec un invité spécial rétro gaming.
Toutes les infos pour Ludigeek, vous allez sur Facebook, vous tapez Ludigeek, L-U-D-I-G-E-E-K, et vous aurez toutes les infos, le programme, les invités, qui sera là, et comment venir, etc.
Alors, tu parlais de Star Wars, on en a parlé plusieurs fois. Il y a Star Wars 3 qui sera Boulogne-sur-Mer le 11 et 13 novembre pour se plonger dans l'univers du Seigneur des Anneaux,
c'est
je pense.
Ça, mais avec des. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça.
Star Trek,
voilà. Tu vas en costume de Star Trek Non, tu vas pas te faire écharper parce que c'est des gens très très sympas.
Et il y a deux films. On va faire la prise de Spock quand même, on a vu.
Mais c'est un très très beau. Enfin, j'ai jamais eu l'occasion d'y aller, mais en plus, à chaque fois, il y a aussi des comédiens qui viennent, des comédiens de Star Wars, pas juste des doubleurs qui viennent. Donc des dédicaces, il y a des auteurs, il y a des Lego et des Playmobil Star Wars, bien sûr, sont les fans. Enfin, c'est la folie, c'est un très grand salon. À quel endroit c'est exactement ? Est-ce que tu as les infos ?
Pour le Star Wars ?
Oui.
C'est Boulogne-sur-Mer. Où exactement ? Je te conseille de te battre avec l'internet de Radio Campus pour avoir plus d'informations.
Il y a une salle qui s'appelle, il y a plusieurs salles, il y en a une qui s'appelle Tatooine, une qui s'appelle Coruscant, l'autre Mustafa. Enfin, vraiment, c'est la totale. C'est des fous, ces gens-là. C'est au Palais des Sports d'Anremont, à Boulogne-sur-Mer. Donc vendredi, attention, vendredi, samedi, dimanche, il profite du pont aussi. Vendredi de 13h à 19h, et samedi 10h-19h, et dimanche 10h-18h.
Rapidement aussi, il y aura le dernier game show Retro Arcade Edition 2, le 12 et 13 novembre, à Quessy Centre, à la salle Bouly. Ce sera de 10 à 20h pour le samedi, 10h, 18h le dimanche. Entrée payante et gratuite pour les moins de 10 ans. C'est organisé avec la House of Geek
Association, très très sympa.
Ça donne envie.
Retro Arcade Edition 2, waouh.
Et le dernier événement, alors je pense que c'est toi qui as vu ça, Dom, sont des portes ouvertes.
Ah bah oui, j'ai vu ça, j'ai pas résisté, j'ai vu ça dans le journal. Stella, le fabricant de Babyfoot et de Flipper, etc. Voilà, c'est tout parce qu'ils font des portes ouvertes. Alors c'est un petit peu de publicité, parce que c'est commercial on va dire, mais ils font des portes ouvertes de leur, salon, enfin boutique en gros, vendredi, samedi et dimanche prochain aussi. Et pourquoi pas, quand on est fan de Babyfoot, Flipper et compagnie, c'est le truc de geek ça.
Est-ce qu'ils invitent le chanteur belge Stella pour animer l'événement?
Je crois pas.
Ça serait... Mais est-ce qu'il y aura de la Stella à boire aussi?
Bonne question.
Oui, forcément.
À consommer avec modération, il faut toujours le rajouter, non?
Oui, oui. Donc même si, comment dire, Radio Campus...
Vous cherchez Stella Babyfoot sur Facebook, par exemple, et vous aurez toutes les informations. Mais c'est sympa de... C'est une boîte de Cocorico, c'est une boîte... on va dire des artisans. Ouais, c'est ça, c'est presque de l'artisanat made in Hauts-de-France. Donc c'est l'occasion aussi de visiter une société assez... qui marche bien, je crois qu'ils ont eu des soucis marrants, puis depuis quelques années, ils ont lancé l'activité, et le Babyfoot, le Flipper, enfin tous ces jeux de café, ça revient, donc c'est cool.
On vous en parlera en détail.
Apparemment, ils ont une super collection, il va y avoir un musée à l'intérieur, une super collection d'anciens Babyfoot et compagnie, ça va être assez sympa à voir.
Et puis tu peux voir qu'avant, il y avait vraiment de la qualité, quand tu vois les Babyfoot en plastique que certains peuvent recevoir à Noël, par exemple, tu te dis...
Promettre une livraison garantie avant Noël, moi je dis ça, je dis rien.
Alors, on en parlera rapidement la semaine prochaine, donc le 19 et 20 novembre, il y aura Dénanimé, il y aura Créaludique, qui est la convention des arpenteurs de rêves.
Très très gros programme aussi les semaines à venir.
Alors, nous allons revenir avec toi, Antoine. Pour parler. Ah, Dominique, avant.
Oui, encore oublié un truc. Ah. On parle d'auteur. Et une question. Le jeu de rôle, tu connais? T'as déjà pratiqué,
oui,
etc.
J'étais ado et un peu après aussi. Bon, à l'époque, c'était DD de 6. Quand on avait un D de 20, c'était formidable.
Oh, waouh, c'était où?
Et justement, je jouais beaucoup.
Tu avais un D20 dans ta trousse. Je dis, wow, les gens te regardent. C'est quoi ce truc bizarre?
On jouait à Star Wars.
C'est pour invoquer
justement
des démons.
Des cartes, on faisait des campagnes où on se déguisait. Alors à l'époque, il fallait en plus fabriquer nous-mêmes les sabres laser, les blasters, il n'y avait rien en fait. Donc il fallait qu'on fasse tout nous-mêmes, donc c'était assez sympa.
Parce que le week-end prochain, donc du 11 au 13 novembre, revient un événement jeu de rôle qui était né pendant le confinement, parce que les salons de jeux de rôle, tout ça, enfin comme tous les salons de jeux, et tous les salons sont tombés un petit peu en panne pendant le confinement, et des gens sont rassemblés sur Internet, sur Twitch entre autres, et sur Discord, entre francophones, donc les Suisses, les Belges, les Français et les Canadiens, pour faire un événement sur un week-end complet, France, Belgique, Suisse, Luxembourg, Québec. Là, ça sera du 11 au 13 novembre encore, le RollEvent.fr, et RollEvent, ça fait penser à Z-Event. C'est parce que aussi ils associent aussi un espèce d'événement caritatif, parce que pendant 3 jours, tu as des parties de jeux de rôle, tu as des tables, tu peux t'inscrire, tu as des auteurs de jeux de rôle, de jeux qui viennent, qui animent des tables, tu peux t'inscrire, tu peux dire j'ai envie de faire jouer tel jeu, etc. Tu peux t'inscrire sur le site roll-event.fr. Et il y a pas que ça, il y a des auteurs, des artistes, des artisans qui viennent sur le Discord. C'est un petit peu comme un salon, tu visites, tu promènes, tu peux aller voir, leur parler, etc. Et il y a aussi sur YouTube et Twitch des conférences, des débats sur des sujets importants autour du jeu de rôle, sur la création, même l'édition de jeu de rôle. C'est-à-dire des débats passionnants sur l'inclusivité dans le jeu de rôle, enfin plein de choses, le racisme, des sujets de société qui affectent le jeu de rôle aussi, entre autres. Et alors cette année encore, c'est au profit de Hopi Clown et Fondation Théodora, Lilo Clown et les Blues Roses, qui sont des associations françaises, belges, suisses, je ne sais plus laquelle et qui vont intervenir, qui vont faire du jeu, des animations dans des hôpitaux, entre autres, ou même pour animer des chambres, aménager des chambres pour que les parents puissent accompagner leurs enfants, etc. Donc c'est très important. Donc le Roll Event, et pendant tout le week-end, donc vous pouvez acheter, donner de l'argent, faire des dons, mais aussi acheter chaque année, si je ne dis pas, il y a un bundle de jeux qui sont offerts par des auteurs, et vous l'achetez, vous donnez la somme que vous voulez, et vous avez en format PDF et numérique, bien sûr, des tonnes de jeux et de livres et de jeux de rôle et que vous ne lirez peut-être jamais, mais c'est pas grave, vous avez fait une bonne action.
Dans ta bibliothèque.
J'ai des milliers de jeux de rôle sur mon disque dur qui sont très, 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 très bien.
Et des fois, t'as même des doubles, mais tu t'en fous.
C'est, mais pas, c'est une... pas grave, parce que c'est une, profit d'une bonne action.
Ouais, c'est pour une bonne action.
Exactement. Et pour compléter ce que tu as dit, Dom, donc, les Blues Roses sont la France, la Fondation Théodora est suisse, l'Opicloun est Belgique, et l'île Clown est du Luxembourg.
Très bien. Donc Rolevent, rolevent.fr pour toutes les infos, les adresses, comment aller sur le Discord, comment suivre le programme de tous les débats, de toutes les parties. Le week-end prochain, même s'il y a 3 jours, ça va être très très dur de tout faire.
Alors, pour revenir à notre invité, lorsqu'on achète un bouquin lié à l'univers du Butterfly Land,
ça s'appelle un livre.
Un livre, pardon. Il y a une partie qui est reversée à la Ligue contre le cancer.
Oui, en fait, c'est parce que j'ai été malade étant jeune. Et j'ai la chance d'être là. Et je voudrais que d'autres personnes aient. Et cette chance aussi.
D'accord. Voilà, en tout cas, c'est une bonne chose. Alors, alors combien de livres sont actuellement donc disponibles? Alors, il y a les chroniques de Butterfly Land, ça c'est les débuts ou...
Oui, c'était donc chez le premier éditeur parisien. Là désormais, donc c'est 4 livres. Le Butterfly Land, il n'y aura pas de numéro 5, même si je laisse toujours mon adresse mail dans les livres, donc j'ai des lecteurs qui disent « Ah, ça serait bien d'en avoir un 5 par rapport à ce que vous mettez dans le 3, on pourrait rebondir. » Il y a même certains qui me recréent une mythologie à laquelle j'avais absolument pas pensé, donc c'est vraiment formidable. Donc là, c'est la découverte du Butterfly Land, ce sont les premiers que j'ai faits. Il y a aussi le Butterpolar Land, qui se passe toujours dans ce monde donc rétro-futuriste, un univers cher à Jules Verne. Et le tout dernier, La Bonne Couleur. Alors là, rien à voir. C'est un thriller qui se passe aux États-Unis dans les années 60, avec un fond de racisme, de Ku Klux Klan. Celui-ci était assez délicat à écrire, en fait, parce que je me suis documenté sur le Klan. On m'a prêté beaucoup de livres, qu'il faut que je rende d'ailleurs. Et ce qui est terrible, c'est que les photos que vous voyez sont des vrais morts, en fait. Et il y en a une, je l'ai encore en tête, mais si je l'ai vue 2 secondes, parce que cette personne qui est morte, qui a été tabassée, tuméfiée, elle avait des parents, peut-être une femme, peut-être des enfants, des amis sans doute, des cousins probablement. Et il y a toute une histoire derrière cette personne qui est morte. Et ils ont fait des cartes postales. C'est ça qui est assez terrible. Enfin, je sais pas, moi, quand je suis à la mer, j'envoie des dauphins. Quand je suis à la montagne, j'envoie des marmottes. Et ils en faisaient des cartes postales. Et on les voit des fois avec un sourire qui fait 4 fois le tour du visage. Et un peu comme des pêcheurs avec un thon géant, ils exhibent leur cadavre. Mmh. Et ils se l'envoient. Donc j'ai essayé, même si cette histoire de La Bonne Couleur, c'est faux, c'est un thriller un peu psychologique. J'ai essayé quand même de coller au maximum à cette réalité qui a été dure. J'estime en fait être un excellent faussaire. Vous savez, un petit peu comme un peintre où il faut passer la copie du tableau original au carbone 14 pour voir si les choses sont déroulées ou pas. Là, c'est inventé. Mais je décris des choses qui sont vraiment passées. Les écoles qui étaient fermées, parce que le jour était férié, puisque c'était un jour de fête, on allait lyncher un être humain. C'était dans les années 60, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça, quelque part. On peut encore raconter cette histoire de bouche à oreille, et ça a existé. Et c'est terrifiant.
Mais ce qu'il y a du monde, c'est qu'eux n'ont pas ce concept d'être humain, en fait, lorsqu'ils réalisent tout le...
Oui, alors en plus, oui, effectivement, je ne pense pas qu'ils avaient le sentiment, moi j'ai dit être humain, parce que ce sont des êtres humains. Mais non, pour eux, non. Oui, évidemment, pour eux, c'est des sous-hommes. Même certaines vidéos où on voit, en France, c'est interdit, chez les anglo-saxons, ils peuvent, des croix gammées tatouées. Enfin... Alors, c'est sûr qu'aux États-Unis, ça n'a pas le même impact que chez nous, puisque c'était en Europe. Mais bon, je pense que lorsqu'ils font ça comme tatouage, ils savent parfaitement que ce n'est pas un logo Peace and Love qui vient de se mettre. Et je me dis que ce type, il a peut-être son grand-oncle, son arrière-grand-père ou je ne sais pas quoi, qui est mort en Normandie pour nous libérer de la barbarie nazie. Et lui, bing, il se tatoue une croix gammée. Enfin, c'est... Malheureusement, l'être humain a une mémoire très très courte. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, il est capable du meilleur comme du pire.
Courte et sélective.
Oui, en plus.
Après, c'est ce qu'on en parle souvent ici dans l'émission, mais maintenant avec Internet et ces contenus qui vous sont proposés, vous alimentent sur ce que vous voulez voir.
On tourne en rond en fait.
Et vous ne verrez jamais la face opposée, puisqu'on va, pour vous accrocher, pour que vous soyez...
Du contenu du même type.
Voilà,
du
pour vous voyez la publicité origine. Qui est en dessous, on va vous donner... Bah voilà, voilà.
Et on tourne en rond et on s'auto-persuade. Et je pense qu'il est toujours très utile de sortir de sa bulle de confort, en fait. Même d'essayer de goûter quelque chose. J'aime pas. Goûte. Et surtout, et c'est ce que je dis souvent à ma fille, je lui dis, il faut que tu saches pourquoi t'aimes ou t'aimes pas. On peut pas tout aimer, mais... Il faut que tu saches pourquoi t'aimes pas. Parce que le goût est trop sucré, parce que... là, je parle de nourriture, évidemment. Ou parce que j'ai pas aimé les images, elles sont sombres. Pour un film, j'ai pas aimé... Mais savoir pourquoi on aime et pourquoi on n'aime pas les choses, je trouve ça très important, en fait. Il faut comprendre. Et au moins sortir de sa zone de confort et puis aller explorer les choses.
Oui, il y a quand même des limites.
Oui, oui, il y a zone de confort et zone de confort. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est un petit peu ce que je veux véhiculer pardon, au Butterfly Land. C'est vraiment faire en sorte que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. J'aime beaucoup l'engouement qu'il y avait au 19e siècle. C'était pas un siècle parfait, mais on découvrait des vaccins, l'électricité. Il y avait des progrès sociaux qui se dessinaient. On avait soif d'avenir. On était persuadé que demain serait meilleur qu'aujourd'hui. L'être humain était en train de se jouer de son créateur, en train de refaire un Éden terrestre. L'an 2000, ça devait être quelque chose de formidable. Tu parles, on est en trottinette, on est même pas en soucoupe volante. Mais j'aimais cet engouement où on voulait l'avenir. On avait envie d'avenir, parce que demain serait meilleur. Maintenant, quand on parle d'avenir, c'est l'horizon 2025. Tu parles, c'est dans 3 ans.
Et puis à l'époque, tu n'avais même pas l'information, il fallait le temps qu'elle arrive. Quand il se passait quelque chose à l'autre bout du monde, même à l'autre bout de la France, il fallait des mois, voire des années, avant que toi, tu sois au courant, à moins d'être vraiment très informé, voyageur, ou je ne sais quoi, ou de lire les gazettes tous les matins, et encore. Donc maintenant, on veut...
On veut tout de suite.
Dès qu'une information, on a une nouvelle invention, ok, le prochain téléphone, il arrive quand? Ok, c'est ça.
Hein. Et surtout que les informations, elles ne sont pas traitées, tu les as brutes de décoffrage, et on ne t'a pas éduqué non plus à les traiter par toi-même. Parce qu'avant, c'était les journaux, les journalistes, ou certains médias qui le faisaient, mais maintenant, même eux, ils sont gâchés par l'instantané, mais qu'ils prennent les sources sans les vérifier.
Puisqu'on parle un petit peu d'autre chose, mais j'ai été très amusé de la une de Paris Match il y a de ça un mois, où on voyait Bernard-Henri Lévy en train de ramper pour visiblement éviter des balles, et la photo était prise en plongée. Donc cet idiot de photographe, il risquait sa vie pour le prendre en photo, alors que lui évitait les balles. Et c'est passé. Voilà.
Manipulation extraordinaire. Des balles. C'est la grande question. Connaissant Monsieur Lévy.
Non, je vais pas la faire. Je sais pas s'il y avait des balles, mais il y avait un trou.
On l'a tous en tête. Qui va la sortir en premier? Et même si au 19e siècle, et j'aurais adoré être en 1905, lorsque Einstein a commencé à parler de sa théorie, etc., je suis quand même très heureux d'aller chez le dentiste actuellement. Donc il y avait des choses bien parce qu'on pensait que demain serait meilleur. Mais on parlait brièvement tout à l'heure du cancer. Maintenant, ça se guérit de mieux en mieux.
Ça se détecte déjà.
Voilà. Et donc, il y a des choses qui sont extraordinaires. Et je pense que, pareil avec l'exemple de la moto et du cheval, il suffit de regarder tout ce qui va bien. Et on verra que, globalement, ça va quand même. Même si il y a des points d'amélioration quand même.
Il y a toujours une phrase, c'est qu'est-ce que le bonheur? C'est les attentes moins la réalité.
Oh, je suis pas très bon en maths. Moi.
Voilà.
Ou voilà. Alors,
je vous laisse méditer. Voilà.
Vous avez juste se contenter de ce que tu as. Point. Ouais, ça suffit.
Je sais pas. Alors, revenons à ces différents livres. Le premier, donc, on a le Butterfly Renaissance, puisque tout commence ici par la Renaissance. Comment est-ce qu'on pourrait décrire cet univers du Butterfly Land?
Bon, en fait, notre héros, alors je l'appelle Antoine, puisque c'est le prénom que ma mère m'a donné, arrive, il y est propulsé, il découvre tout, il trouve que tout est fabuleux. Jamais il n'a vu une ville aussi belle. L'architecture est majestueuse, glorieuse, tout est fait avec finesse et grâce. L'humanité vit en paix et en harmonie, parce que les hommes ont enfin compris qu'il faille qu'on s'aime et qu'on se respecte tous. Et je vous promets sur mon crâne que ce monde existe. Donc, comme on disait, c'est aussi un monde rétro-futuriste, donc il s'émerveille vraiment de tout ce qu'il y a. Mais rapidement, il apprend qu'il est dans un rêve. L'autre chose, trop beau pour être vrai, tout ça c'est un rêve. Et plus qu'un rêve, il a du mal, je vais faire la différence entre le rêve et la réalité. Et là, il dit, je suis pas dans un rêve, c'est la réalité. Il avait vu juste, il est bien dans sa nouvelle vie, sa nouvelle réalité, mais il y est venu en rêvant. Et j'ai voulu faire venir mon héros, et ceux qui vivent au Butterfly Land dans cette vie par le rêve, pour une raison simple, c'est parce que nous rêvons tous. On peut donc tous vivre au Butterfly Land. Non mais c'est vrai, pourquoi seraient toujours les mêmes les héros? Moi aussi on a le droit. Moi, je me suis entraîné toute ma jeunesse à faire bouger des objets, puisqu'on parlait de Star Wars. Bon, j'ai pas une très bonne nouvelle pour les Jedi. Ça marche pas. Et dans ce monde, on fait justement en sorte les rêves de l'humanité. On a la chance, une fois qu'on y vit, puisqu'on peut tous y vivre, de faire les rêves de l'humanité pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. En fait, j'ai toujours considéré qu'il faudrait avoir honte de mourir si on n'a pas eu une petite victoire sur l'humanité. On en a tous. Il suffit juste d'en avoir conscience, de pas s'en gargariser, mais... C'est à nous d'améliorer les choses, au quotidien, tous ensemble. Donc c'est ce qu'on découvre dans le premier. Et le héros, lui, peut tuer, de cette là de donner du sang. Alors est-ce un don ou une malédiction de pouvoir tuer et de donner du sang au Butterfly Land? Ça, on le découvre, mais le pire, c'est que l'amiral bleu, qui règne sur le monde des cauchemars, souhaite avoir du sang. Et enfin, il y a un petit nouveau qui peut lui en offrir. Alors, pourquoi en veut-il? Qu'en fera-t-il? Et quelles en sont les conséquences pour le Butterfly Land, mais aussi pour le monde ordinaire, puisque les deux sont liés? Tout ce que nous avons dans le monde ordinaire provient du Butterfly Land. Ben c'est ce qu'on suit avec Antoine et Bérénice. Dans la mesure où notre héros tombe amoureux de la femme la plus belle au monde, ouais ben tant qu'à faire, Bérénice. J'ai pas eu beaucoup de difficultés pour la créer, puisque j'avais mon amoureuse comme muse.
Alors, c'est dans un univers donc rétro-futuriste, puisque lorsqu'on peut te voir en dédicace, notamment, tu rapportes quelques accessoires qui pourraient provenir du Butterfly Land, notamment une machine à écrire assez spectaculaire.
En ordinateur. En fait, je décris des machines comme ça à l'intérieur du livre, et je m'étais amusé à faire en dur ce que j'avais fait avec des mots. Alors évidemment, c'est beaucoup plus facile et créatif avec des mots, on n'a pas de barrière. Et ça me permet au lecteur de m'identifier, parce qu'il ne se souvient pas de mon visage. Donc il me dit, oh, on a vu votre ordinateur, on a su que vous étiez là. Et aussi maintenant, c'est devenu une sorte de porte-bonheur. J'ai jamais fait un salon ou une dédicace sans. Et j'ai pas envie, parce que voilà, c'est par superstition, je me dis, ouais, c'est mon porte-bonheur. Et puis pour ça, ça m'amuse de l'avoir, ça me permet moi aussi de me plonger un petit peu dans ce décor. Alors, il y en a pas mal qui peuvent dire que c'est du steampunk, mais c'est pas du steampunk en fait. Il y a quelques petites différences à mon sens. Quand vous tapez steampunk sur Google, ils sont tous armés.
Ouais.
Et je pense pas que ce soit une société vraiment apaisée si on a besoin d'avoir une arme pour aller faire ses courses. C'est vraiment l'idée, c'est cette idée, pour revenir très vernienne, faire en sorte que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Le steampunk, c'est plutôt comment est devenu notre époque avec les moyens techniques du 19e siècle, en s'arrêtant à la vapeur et au rouage. Le rétrofuturisme, c'est comment va devenir notre époque en espérant qu'elle soit merveilleuse. Jules Verne se servait de l'électricité. Le Nautilus fonctionne à l'électricité, Norobur le Conquérant à l'électricité, le Château des Carpathes, il y a de l'électricité. Voilà, parce qu'il s'émerveillait de tout ce qu'on était en train de générer, de créer, avec cet engouement pour un avenir meilleur, en fait.
C'est une espèce de magie. Il y a un côté magique à l'électricité.
Oui, la fée électrique, c'était formidable. Mais je reste encore convaincu que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Il suffit juste qu'on se le dise tous 20 à 30 fois avant de se lever, et puis ça devrait aller.
Allez, challenge accepted.
Dans ces cas-là, pourquoi que tu te lèves, t'as qu'à attendre demain.
Vous avez 3 heures encore. Voilà.
Allez, petit instant musical, et on va continuer à explorer ce monde, vous l'avez compris, de rêves, avec un artiste qui a créé son groupe qui s'appelle Cave Town, qui nous sort un nouvel album du nom de Worm Food. Ça y est, j'ai parlé de food. J'ai Rénal qui est très attentif. C'est la chanson 1994.
Stories on the floor, my mom and dad in love like it's nothing ever stops. So say you're coming around. I need you lately, everything's been getting me down. Yeah, the kids are grown up, I feel like I'm stuck, but I don't wanna catch up right on the floor. It was the last straw. It's like I woke up on the wrong side of town. I say you're coming around. I need you lately, everything's been getting me down. I felt so much older than the kids around the corner, but I feel so much younger now. Overtook them all and slowed back down. When the child Daisy Crown.
Cave Town avec ce nouvel album Warm Food et la chanson 1994. Nous sommes avec Antoine Candeil pour parler de l'univers de Butterfly avec cette série de livres. Alors, où est-ce qu'on peut, dès à présent, pour ceux qui ont été convaincus et pour ceux, même ceux qui ne le sont pas, je vous conseille de plonger dans cette série. Où est-ce qu'on peut s'obtenir les bouquins? Alors, un peu partout, mais qu'est-ce que tu nous conseilles, Antoine?
Alors, on peut les trouver dans toutes les bonnes et mauvaises librairies, comme dirait Gottlieb. Alors, s'ils ne sont pas en rayon, on peut les commander partout, donc c'est pas un souci. Je m'occupe aussi personnellement des envois. Donc ne pas hésiter à dire à son libraire, voilà, c'est pour Clémence ou pour Arnaud, merci de le préciser. Comme ça, bah, moi je mets un petit mot qui permet d'avoir un livre dédicacé. De ce fait-là, c'est pas un livre, c'est le livre du lecteur. Donc on peut vraiment le trouver partout, il est référencé partout et dans toute la France aussi.
Voilà, sachez que vous pouvez toujours réécouter cette émission et les émissions de Radio Campus sur le site campuslibre.com ou sur notre site anotherpodcast.fr qui va bientôt revenir en ligne, attention, teaser, donc lorsque vous serez aux toilettes ou au travail, puisque, enfin, si vous êtes en train de travailler. Non, je sais que c'est un petit dicton qu'Antoine aime bien dire lors de ses vidéos.
Oui, c'est ça. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas dit ni entendu, et en le redisant, je me disais, tiens, c'est quelque chose. Oui, quand je faisais des vidéos, je disais, ça commençait par. Ouais, c'était ça. Soit vous êtes au travail et vous ne travaillez pas, soit vous êtes aux toilettes et vous regardez une vidéo, parce qu'en général, c'est comme ça que ça se passe. Les cabines téléphoniques, désormais, on en a tous chez soi.
Alors, cet univers de Butterfly Land qui est un peu rétro-futuriste s'inspire énormément, et vous le saurez dès les premières lignes du bouquin, de Jules Verne.
Qui... Oui, ça commence par cette phrase d'ailleurs, bienvenue à l'hôtel Jules Verne. Bon, j'ai toujours aimé Jules Verne, mais il y a deux choses que j'avais beaucoup aimées. C'était une attraction qui n'existe plus à Disneyland, où on voyageait justement avec Jules Verne, et dans Retour vers le futur, le numéro 3, où ils sont émerveillés par Jules Verne. Alors, sauf que les Américains, bien sûr, diraient Jules Verne, et les Américains sont persuadés qu'il est américain. Ils nous l'ont volé aussi, celui-là. Bon, on a volé les frites aux Belges, on dit rien, c'est partout. Mais nous avoir volé Jules Verne, c'est pas sympa. Et c'est vrai que il y a très peu de Jules Verne qui se passe en France. Paris au XXe siècle, Norobur le Conquérant, il survole Paris, Vlatou, le Tour du Monde en 80 jours, une petite halte, c'est tout. La plupart, en fait, c'est vraiment ce côté très britannique avec des clubs. La Terre à la Lune, ça commence par le Gun Club. Le Reform Club, c'est pour le Tour du Monde. L'Excentric Club, Les Britanniques sont très très club, nous on... moins. Donc, et la plupart du temps, ce sont des héros britanniques. Alors ça, je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il y a plus de liberté, ça permet de décaler les sujets, mais ça se passe très rarement en France. Les 500 millions de la Bégomme, où il y a juste une allusion à Franceville, mais c'est aussi parce qu'il y a une rivalité avec les Allemands pendant la guerre de 1871, parce que Jules Verne est assez engagé politiquement.
Le rayon vert ? Non, même pas, je crois que c'est en Irlande.
Ouais, c'est en Irlande, le rayon vert. Non, il y en a très 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 peu. Voilà, c'est... Mais bon, ça reste à nous, Jules Verne. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il a fait rêver des millions et des millions de personnes. C'est l'auteur le plus traduit au monde, derrière Agatha Christie. Et je comprends pourquoi. Rien qu'en dit le mot Jules Verne, ça crée quelque chose dans l'imaginaire des gens.
L'avantage, c'est qu'il a tellement voyagé qu'il y a des maisons et des musées Jules Verne partout en France. À Nantes, j'ai visité la maison Jules Verne. À Amiens, c'est à Amiens qu'il y a la maison, maison Jules Verne.
C'est une
maison Jules Verne partout.
Très, très bien. Alors, il n'a pas beaucoup voyagé, en fait. Il avait dit « je ne voyagerai plus qu'en rêve ». S'il avait voulu se faire engager, son père voulait qu'il fasse du droit, lui, il ne voulait pas. Et son père avait, in extremis, avait vu qu'il était engagé sur un bateau. Il a dit, bah, si c'est ça, je voyagerai plus qu'en rêve. Il a voyagé un petit peu sur la Méditerranée avec son fils et son bateau. Mais c'était plus un voyageur du rêve, en fait. Et c'est pour ça qu'il a réussi à nous imaginer des choses. Dans 20 milieux sous les mers, il y a toute une géographie qui a inventé. C'est ça qui est extraordinaire chez lui. C'est le père de tout. Dans les années 50-60, il y a eu beaucoup d'engouement pour la conquête spatiale. Peut-être, et sûrement parce que Jules Verne a dit qu'on irait sur la Lune. Et qui est né, qui a grandi dans les années 50-60 ? George Lucas, Steven Spielberg. Donc il y a une chance sur une que, sans Jules Verne, on n'aurait jamais eu Star Wars, par exemple. C'est le père de tout.
On va le dire à la convention Star Wars, mais où est Jules Verne ?
Ouais, voilà. Bande de voleurs, etc.
Voilà, donc il a fait rêver. Alors, à l'époque... Beaucoup de gens qui peuvent trouver qu'il est un petit peu long parce qu'il était payé déjà à la ligne. Donc plus il écrivait, plus il était payé. Et il était édité dans un magazine qui s'appelait Magazine d'éducation et de récréation. Et son éditeur, Edsel, et aussi son mentor, dit « Ok, je veux bien qu'on aille 20 milieux sous les mers, je veux bien qu'on aille sur la Lune, mais il faut qu'il y ait un rapport éducatif. » Et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de détails, parce qu'il fallait qu'il y ait un rapport éducatif. Les anglo-saxons s'embêtent absolument pas avec ça. Wells, quand il a fait sa machine à voyager dans le temps, ils ont dit, bon allez, en avant Guingamp, tu voyages dans le temps. Voilà, c'est un côté très français, très 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 snob en fait. La littérature en plus à l'époque n'était pas la reine. Les ateliers premium, on va dire, c'était la poésie et le théâtre. Et la littérature, l'imaginaire, c'était vraiment en numéro 3. D'ailleurs, Jules Verne n'a jamais été... il est immortel, bien sûr, pour tout le monde, mais à l'Académie. Oh. Et c'est aussi un petit peu parce que il avait rencontré du succès. Et les académiciens, on ne se souvient pas beaucoup d'eux. Donc, ils ne voulaient pas qu'il ait les honneurs, plus les honneurs du public, en fait.
Est-ce que tu... Il y a un autre auteur, est-ce que tu t'en serais inspiré ? Si je te dis Winsor McCay, est-ce que ça te parle ? Little Nemo in Slumberland. C'est une bande dessinée des débuts de 1905,
avec
un auteur américain, où un enfant, chaque nuit, se réfugie dans ses rêves, voyage dans ses rêves, etc. Et je pense à ça en plus, parce que j'ai vu par hasard tout à l'heure une bande-annonce d'un nouveau film qui va sortir sur Netflix. C'est l'adaptation de Nemo au pays des rêves, en français, je ne sais pas comment ça s'appelle, Little Nemo in Slumberland, qui est une BD très
connue. Oui, j'ai vu avec des pieds de lit très longs.
C'est très art nouveau, etc.
Très belle image.
Une petite bande-annonce qui est un film qui va sortir bientôt. Je pense que c'est sur Netflix, avec Jason Momoa, au hasard, et une jeune actrice complètement inconnue, Marlo Barclay, parce que dans l'adaptation sur Netflix, Nemo n'est plus un petit garçon, c'est une petite fille qui s'appelle Nemo. Voilà.
Mais donc, quel film actuel n'a pas Jason Momoa ?
C'est vrai. C'est pas lui qui joue la petite fille, non, pas encore.
On peut pas tout faire.
Mais c'est marrant de voir tous ces changements qu'on peut voir dans les grands classiques pour basculer un peu les genres. C'est très intéressant. Alors, est-ce qu'il y a, Antoine, on va essayer de grappiller quelques, peut-être, teasers sur de prochains travaux. Sur quoi est-ce que tu es en train de travailler en ce moment ? Est-ce qu'on continue dans le Butterfly Land ? Est-ce qu'il y a...
Alors, oui et non. Moi, j'aime bien les réponses de Normand, comme ça. Les gens, qu'est-ce qu'il va dire ? Alors, j'ai beaucoup d'idées embryonnaires, en fait. Et il y en a une. Donc, les habitants du Butterfly Land s'appellent des Fantanautes. Ça vient du corse Fantasteskera, qui veut dire rêverie, et du grec Naut, qui veut dire navigateur. Ce sont donc des navigateurs du rêve. On peut tous devenir Fantanautes. Il suffit simplement de vous endormir et de rêver. Si vous pouvez lire le livre, c'est un petit peu mieux, mais vous n'êtes pas obligé. Et donc, là, ça va être aussi un rapport avec Jules Verne. Il va se passer, alors, je ne vais pas encore dire quoi, mais il y aura donc 7 Fantanautes qui se connaissent parce qui sont Fantanautes au Butterfly Land, et ils vont essayer de se retrouver dans le monde ordinaire. Et je les ai sélectionnés par rapport au point d'étape du tour du monde en 80 jours. Et il y aura une enquête à résoudre. Ça va se passer dans le monde ordinaire, pas du tout dans le Butterfly Land, peut-être un petit peu, des petits clins d'œil. Mais là, ça va être quelque chose d'un peu plus actuel, mais toujours ce petit clin d'œil au Butterfly Land, aux Fantanautes, qui sont tout simplement des faiseurs d'espoir et des faiseurs de rêves. On a tous besoin de rêver, et j'encourage tout le monde à le faire.
Voilà, et pour vous guider, donc, vous avez donc le Butterfly Land, le premier livre Renaissance, qu'il vaut mieux prendre avec la résurrection directe pour ne pas être coupé dans votre élan, hein, en plein milieu d'un cliffhanger peut-être.
Oui, c'est ça, ça s'arrête. En fait, le 1 et le 2 faisaient qu'un tome. Et, ils ont été divisés tout simplement pour qu'ils fassent tous plus ou moins la même taille. Et aussi par rapport à pour une histoire de prix, etc. Et donc c'est vrai qu'on est un petit peu frustré à la fin du 1, et c'est dans le 2 où on apprend notamment ce que l'amiral bleu fera du sang. Et je ne vais pas en dire plus, ce sera au lecteur de découvrir.
Parce que tu es à la fois auteur-éditeur et donc propriétaire, on va dire, du Butterfly Land, et si jamais il y a parmi tes auditeurs, voilà, tu vois la déformation, des lecteurs, ou même gens qui s'intéressent, des gens qui disent « Eh, moi aussi, j'aimerais bien écrire quelque chose dans l'univers de Butterfly Land. » Est-ce qu'ils peuvent, quoi, acheter une licence ou te voir avec toi ou...
Alors, ils pouvaient créer à l'époque un quartier.
Oui, il y avait ça dans les premiers livres. Ils pouvaient créer un quartier, en fait. Ils devenaient l'administrateur de ce quartier pour justement faire en sorte que la réalité dépasse la fiction. Mais effectivement, s'il y en a qui veulent utiliser le Butterfly Land, qui voient avec moi... Allez, je le dis, un scoop, il n'y aura pas de licence à acheter. Voilà, parce que le but, c'est effectivement, c'est d'en vivre. L'argent, il faut en avoir suffisamment pour être heureux, ni trop pour pas savoir en faire. Le but, c'est pas de m'enrichir avec. Le but, c'est si je peux permettre à des personnes de s'évader et de faire des choses bien, voilà, j'ai tout gagné. Vous voyez, c'est ma fille, par exemple, hier matin, quand je suis parti en dédicace, elle m'a dit « Tu as vendu tes livres, papa, pour que les gens rêvent ?» Je me suis dit que ce jour-là, même si je ne vendais pas un seul livre, j'avais gagné ma journée, parce qu'elle avait compris beaucoup de choses.
Donc, à qui sont destinés ces livres ? Aux rêveurs, à partir de quel âge ? 8-9 ans, généralement ?
Alors, c'est pour un public très large, en fait. Mon lecteur le plus jeune que j'ai rencontré a 9 ans, ma lectrice la plus âgée a 87 ans, et après, ils ont vraiment tous les âges. C'est assez marrant. Alors, suivant les librairies, les heures, ils auront des âges différents. Ma fille, qui est rentrée en 6e, j'espère, je touche du bois, qu'elle les lira plutôt le trimestre prochain. Voilà, chaque chose en son temps. Après, même pour elle, ça va peut-être pas être non plus évident à lire. Le héros s'appelle Antoine, c'est papa. Donc, mais... J'espère qu'elle les lira.
Elle a qu'à attendre l'adaptation sur Netflix, ça sera Antoinette ou je ne sais quoi.
Ah oui, enfin, à chaque fois que j'appelle Steven Spielberg pour l'adaptation, ça s'en occupe. À tous les coups, je m'en fous.
On a du mal à le joindre en ce moment.
Je ne sais pas pourquoi.
Est-ce que c'est pareil aussi pour l'ouvrage Butter Polar Land, qui est inspiré du monde Butterfly Land, mais l'histoire doit être plus noire peut-être, non? Parce que là, on parle sur un policier.
Alors en fait, il y a eu un mort au Butterfly Land, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas qui l'a tué, évidemment. Pourquoi ? Le détective qui a mené cette enquête a bien voulu nous dévoiler ses conclusions, mais à la condition que son nom soit masqué. Donc effectivement, à chaque fois, le nom est caviardé, un petit peu comme les dossiers secrets de la CIA, etc. Et en fait, c'est parce qu'il a peur. Il craint les représailles des sociétés secrètes du monde ordinaire, secrètes, discrètes, etc., parce qu'ils dévoilent beaucoup de leurs connaissances à l'intérieur du livre. Donc certains passages ont même dû être entièrement masqués, puisqu'on ne peut pas tout dire à des profanes. Donc en plus de suivre cette enquête de meurtre, le lecteur va aussi vivre un petit rite initiatique pour passer du monde de profane à celui d'initié. Bon, là, ça sera à lui de faire le travail, parce que je mets des petites pistes, c'est à lui de faire les choses. Lamartine disait qu'un bon livre est fait 50% par le lecteur. Moi, j'ai fait 50%. Et le lecteur de faire l'autre chemin, en fait.
Antoine Candeille, un grand merci.
C'est moi qui vous remercie
beaucoup. À cette émission.
Donc, est-ce qu'il y a un salon ou un libraire où on pourra te croiser prochainement ?
Je vais terminer l'année pendant tout le mois de décembre au Furet de Louvroil, donc c'est pas la porte à côté. Après, ça va être Saint-Quentin et Douai. Non, sur la métropole, je ne dise pas de bêtises, j'ai pas tout en tête, mais non.
De toute façon, j'imagine qu'on peut retrouver l'agenda sur la page Facebook de les collections du Dr Oz, hein, ta maison d'édition sur Facebook.
Et voilà, même sur le Facebook, le Butterflyland, quand je suis en dédicace, bon, je mets toujours une petite photo pour dire aux gens de venir.
Parfait. Voilà, pour faire plaisir ou faire plaisir à des grands lecteurs.
Non, ce qu'il y a de bien avec un livre, c'est quand on l'offre, on se fait aussi un cadeau, parce qu'on l'offre à la personne, il est content, et nous on peut le lire derrière, donc c'est un double cadeau, c'est vraiment formidable comme cadeau de livre.
Tu me rendras ton cadeau que je le lise. On va se quitter avec le groupe Bread, Love and Dream. Est-ce que tu connais Antoine ?
Non, pas du tout.
Ils ont fait donc une chanson qui s'appelle Butterfly Land. Incroyable. Sur l'album, attention, The Strange Tale of Captain Shannon and the Yuke Back from Giga.
On va laisser la place. On va laisser placer. Quelque chose me dit qu'on va parler de Twitter.
Allez, on vous laisse avec l'écho des gnous. Restez sur Radio Campus. Et d'ici là, portez-vous bien.
Softly like snowflakes, and settle on the rough earth like quiet butterflies. Somewhere over there, a robin cries his tears and leaves them with the dewdrops shining briefly in the grass. So listen quietly and let the river sing his song for you, then weeping rush away towards the freedom of the sea.